Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 3 décembre 2020 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 2, épisode 62. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de l'incommensurable Laetitia. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
LCDE vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Cette semaine, au sommaire, on parlera de social commerce. Nous recevrons Christophe Davy de l'agence ShopiShopa, qui est spécialisée sur Shopify, et on parlera de ce qui fait et ce qui défait l'e-commerce en France. Adrien,
Laetitia,
prêt ?
Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne faut pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
CEA complète son dispositif omnicanal avec le Call and Collect.
RGPD, 3 millions d'euros d'amende et une pluie de reproches pour Carrefour.
Encore Store, la marketplace B2B, lève 25 millions.
Walmart qui annonce l'acquisition d'une solution de Last Mile Delivery, donc solution de dernier kilomètre, qui s'appelle Joyron.
Salesforce rachète Slack pour 27,7 milliards de dollars.
UPS et FedEx annoncent qu'ils ne peuvent plus prendre de commandes en plus auprès des enseignes auxquelles ils ont, avec lesquelles ils ont eu des contrats. Il y a 6 enseignes notamment où ils ne peuvent plus rien faire, ils ne prennent plus rien, Macy's, Gap, Nike, etc. Donc ça rejoint ce qu'on s'était dit sur la montée des volumes de commandes pour en fin d'année. Ça commence à sentir mauvais.
Big Blue, startup française qui propose une solution logistique pour les plateformes de e-commerce en Europe, vient de lever 30 millions d'euros.
TikTok lance une plateforme pour accompagner les TPE et PME dans leur campagne publicitaire.
L'enseigne Leader Price, qui appartient au groupe Casino, vient d'être cédée officiellement à Aldi France.
Facebook qui rachète Customer, la solution de gestion de relations clients en SaaS.
La néobanque britannique Monzo boucle un nouveau tour de table de 66 millions d'euros.
La marque Lifestyle Sostrengren ouvre enfin sa boutique en ligne. Eh oui, Laetitia, je ne sais pas dire.
Imprononçable.
J'ai fait exprès.
Qui parle danois ?
Sostrengren.
Eh bien, je suis super contente parce que j'adore cette boutique et en plus, elle ferme toutes. Donc, je suis super contente qu'il y ait un site et j'y suis allée et j'ai déjà fait des achats. Et enfin, le groupe britannique Arcadia, qui possède entre Topshop, Burton et Dorothy Perkins, eh bien, le propriétaire dépose le bilan.
Et on commence tout de suite, Laetitia, avec la rubrique Quoi de neuf chez nous. C'est la rubrique où on partage un petit peu ce qui se passe chez nous, dans le monde de l'e-commerce et dans notre monde. Laetitia, quoi de neuf chez toi ?
Eh ben, chez moi, c'est toujours du live streaming. J'ai l'impression de ne parler que de ça. En tout cas, vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà.
Je regarde. L'année dernière, c'était RSE. Là, c'est live shopping, live
tous
streaming.
Les ans,
l'année prochaine,
nouveau,
on va voir de quoi tu as.
Un nouveau
c'est
truc
ça.
Chouchou. Bon, en tout cas, là, je suis allée sur un des 3 live streaming organisés par Carrefour. Vraiment par curiosité, parce que je voulais voir comment est-ce
qu'ils t'ont payé pour y aller.
S'y prenaient. Non, mais franchement.
Il faudrait me payer pour que j'aille dans un live shopping, live streaming de
mais
Carrefour.
Mais non, mais en plus, allez sur le compte Instagram Le Café de l'e-commerce et vous verrez, j'ai fait des petits screenshots en stories, vous verrez un peu comment ça se passe. Donc voilà.
Je soupçonne qu'il t'ait contacté au travers du podcast et que t'es payé. J'ai jamais vu l'argent pour que t'ailles assister au live streaming. Non,
c'est
il y a eu quelque chose.
Il y a un business parallèle pour
le
que je fasse des streaming.
Ils t'ont payé un ticket resto, je crois.
C'est ça.
Donc,
non,
alors, comment ça
en
s'est passé
fidélité, là. Comment ouais, ça s'est ça. Passé? Alors déjà, en fait, comment j'ai aperçu ça? C'est parce que j'ai vu une news qui disait « Carrefour se lance pour Noël dans 3 live streaming ». J'avais raté la première date et puis bah, hier, je vois qu'il y a une date à 18h30. Et du coup, je me connecte et je me dis « je vais voir à quoi ça ressemble ». Donc, pour vous situer le contexte, il y a un décor, il y a une scène, comme du télé-shopping, il y a un canapé, c'est décoré en mode Noël, il y a un animateur et une animatrice. On retrouve les bons vieux ingrédients du télé-shopping, du télé-achat. Puis il y avait un invité surprise, c'était un petit enfant qui avait fait sa liste au Père Noël puisqu'il s'agissait d'un live streaming spécial Noël. Et franchement, tout y était, j'ai tout testé, il n'y a rien qui déconnait. Donc dès qu'il proposait un article, il le mettait en valeur, mise en situation. Donc là, en l'occurrence, il y avait une guitare électrique pour enfants. Donc on voit le petit qui raconte sa petite histoire. « Oh, mais moi, j'aime bien faire de la musique à la maison, j'aimerais bien avoir une guitare. » Là, tout de suite, bah, l'animatrice dit « Mais c'est génial, dans le catalogue de Noël de Carrefour, il y a une superbe guitare. » guitare, elle ne présente pas le prix. En revanche, il y a un expert, un vrai guitariste qui vient. Là, petit flop parce que le mec se met à jouer du Nirvana. Je ne suis pas certaine que les enfants qui étaient derrière leurs écrans ou même le petit qui était là aient eu la référence. Donc, le mec se met à jouer, raconte un peu l'histoire de du modèle copié sur une guitare de Jimi Hendrix. Encore une fois, je ne suis pas sûre que les enfants aient capté. Mais les enfants n'étaient peut-être pas la cible principale de ce live streaming. Et pour acheter, c'était très simple. Il y avait un bandeau en bas avec l'objet présenté, enfin le cadeau présenté, ce qui avait déjà été présenté et ce qui allait être présenté. Il y avait juste à cliquer et vous alliez sur une autre page. Vous ne quittiez pas le live streaming et puis vous pouviez acheter, mettre au panier. C'était hyper fluide, il n'y avait vraiment rien de compliqué. Il y avait un chat et le chat, c'était des petits lutins qui répondaient, donc les petits lutins du Père Noël, puisque tout ça était vraiment orchestré comme si on vous présentait un peu comment ça s'appelle là, le truc du Père Noël, là où il fabrique les jouets, là. J'ai oublié le nom. Bon, c'était un peu dans cette ambiance-là. Et franchement, j'ai vraiment cliqué de partout. Alors, j'ai pas été jusqu'au paiement, mais il y avait rien qui déconnait. Les questions les plus récurrentes dans le chat, c'était est-ce que c'est disponible en magasin? Les petits trucs que les gens ne comprenaient pas, c'était mais pourquoi vous faites du téléachat? Alors ça revenait tout le temps. Comment je peux payer? Comment je peux acheter? Donc en fait, il y a quand même le public n'est encore pas très éduqué à cliquer un peu partout et à être redirigé sur une autre page. Enfin, quand je vous dis une autre page, on restait sur le live, vous entendiez encore et vous pouviez regarder, mais vous ouvriez une autre page, mais vous ne quittiez pas le live. Tout ça pour dire que voilà. Ce que j'ai dit depuis le début, c'est toujours des recettes assez simples, mais saupoudrées un peu de paillettes, de décors, d'ambiance. Et comme j'avais dit la dernière fois, un live, ça se prépare. Donc, faut pas qu'il y ait de blanc, faut pas qu'il y ait de bugs. Faut que les lutins là, qui sont derrière, qui soient sur le chat, soient hyper réactifs parce qu'il y a quand même des gens qui se plaignaient, qui disaient « Mais je vous ai posé 3 fois la question, combien ça coûte ?» Voilà, il y a aussi toute cette expérience client et utilisateur à avoir en tête. Donc voilà, moi, j'ai plutôt bien aimé. Je ne suis pas du tout fan de Carrefour, je trouve que d'habitude, enfin c'est toujours le bordel sur leur site ou sur leur catalogue ou que sais-je. Mais là, c'était vraiment par curiosité. Et franchement, il y en a un prochain, je ne sais plus quand. Je vais pas y aller, mais je vous invite à y aller juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble en fait. Et si vous avez des retours à nous faire.
Combien de personnes étaient
connectées ? Mais oui, on voyait, mais il y avait genre 5000 personnes quoi. C'était
c'est hyper
énorme.
Beaucoup 5000.
Non mais vraiment le chat, ça fusait de partout et moi je me disais à
18h30. Même pas le temps de dire ce qu'il y a quoi.
Non, ça allait vraiment très très vite et c'est pour ça que les lutins, je pense que c'était compliqué pour eux quoi. Et même si j'avais l'impression que c'était peut-être un chatbot qui répondait parce que les questions étaient toujours semblables. Bon quand même quoi. Les gens se déchaînaient et je crois que les gens essayaient aussi un peu comme moi de.
Est-ce que pendant le live ils interagissaient avec le chat ?
Non, les animateurs n'interagissaient pas.
Ça les intérêts. Ok.
Ouais, n'intéresse.
Ça aurait pu être une vidéo qu'ils auraient pu mettre play.
Alors, il y a des gens qui ont posé des questions, qui ont dit mais est-ce que c'est vraiment en live ou c'est une vidéo enregistrée ? Mais tu voyais qu'il y avait des petits couacs parfois avec que la nana, l'animatrice, elle répétait 10 000 fois la même chose pour combler des blancs, genre quand le mec réglait sa guitare ou des choses comme ça. Et puis tu voyais aussi que le petit qui était l'invité, il avait des références que la nana ne comprenait absolument pas, genre sur des dessins animés. Elle lui dit mais quel est ton dessin animé préféré ? Et lui, il lui répond un dessin animé qu'elle connaît pas. Donc je pense que si ça avait été enregistré, ils auraient peut-être coupé ça en montage.
Oui, ils auraient fait attention.
Ouais.
Ok.
Voilà, la semaine prochaine pour un nouveau live shopping. Je sais pas quelle marque je vais.
C'était quoi le thème de ce live shopping ?
C'était Noël.
C'était de Noël pour enfants.
Ouais.
Et la semaine prochaine, c'est quoi ? Tu sais pas ?
Non, je sais pas. Bon, je pense qu'on va rester sur le thème de Noël.
Tu sais la solution qu'ils ont utilisée ?
Non, non, non. Ah si, je l'ai lu dans un article. Si, j'ai lu dans un article et d'ailleurs
c'est Spooky. Je
crois que c'est Spooky, ouais, exactement. Ouais.
Ok, parce que j'ai contacté le fondateur justement pour qu'il vienne intervenir. Donc c'est amusant qu'entre temps t'aies pu assister à un live streaming. Ok, on va voir. On verra si on peut les choper et puis qu'ils viennent discuter autour du micro.
Et toi, Adrien, ta news de la semaine ?
Eh bien, écoute, en fait, je vais être ma propre caricature parce que toi, tu me connais, mais donc les gens qui ne me connaissent pas, ils savent que dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. Et j'aime bien intellectuellement me poser des questions philosophiques et notamment mélanger deux concepts qui n'ont rien à voir, essayer de réfléchir qu'est-ce que ça pourrait être. Donc, avant de te donner deux concepts, le premier des concepts, c'est e-commerce et l'autre, c'est edge computing. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'edge computing ? Ça te dit quelque chose ?
Non, mais j'ai envie de dire un truc, mais je pensais absolument pas à ça, donc vas-y.
Vas-y, essaye.
Non, c'est on arrive au climax du computing.
Ah bah, donc c'est bien parce que tu vois qu'il y a computing, ça te fait peut-être penser au cloud computing qu'on utilise également. Et en fait, c'est, je ne veux pas passer trop de temps à expliquer ce que c'est Edge.
Il n'y a pas un truc de rétention ?
Non, en fait, c'est plutôt la manière dont on va, les réseaux vont être distribués. Donc okay. Oui, c'est technique, Laëtitia. Et oui, okay. Ça va être. Ça
à chacun son truc, hein. Tu sais, moi, c'est le téléachat. Truc, et toi, c'est la technique. Hein. Voilà.
Non, pour faire très très simple, l'Edge computing, après le cloud computing, enfin, c'est pas après parce que l'Edge, ça existe depuis un moment, mais tu dis, tu sais, le cloud computing, tout est dans le cloud, tu as des gros serveurs qui vont tout gérer. Si demain tu as l'explosion des montres connectées, des objets connectés, ils ne peuvent pas tous se connecter au même serveur, ça peut faire des saturations, etc. Et donc l'Edge, l'idée, c'est de dire que tu ne vas plus envoyer tes données dans un serveur dans le cloud centralisé, mais tu vas tout calculer en local, au niveau de ton périphérique. Et c'est également lié à une autre chose, c'est lié à deux choses. Un, les réseaux sont de plus en plus rapides, notamment avec la 5G, et deux, le calcul, la puissance de calcul local, elle est de plus en plus forte. En fait, l'ordinateur, le téléphone que tu as là, il est équivalent à un ordinateur d'il y a 10 ans, peut-être un serveur d'il y a 10 ans ou 15 ans, j'en sais rien. Donc, l'Edge, l'idée, c'est de dire que tu ne vas plus envoyer tes données, tu vas les calculer, tu vas pouvoir processer tout ça en local. Et c'est très utilisé dans l'Internet des objets, l'IoT, notamment. Donc, tu calcules en local et tu ne vas pas envoyer une image à ton serveur qui va la calculer, qui va te renvoyer le résultat, ce qui est aujourd'hui typique pour les solutions. Et donc, je me suis dit, en quoi l'Edge, il allait pouvoir, l'Edge Computing qui est en train de se développer, de cartonner. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à aller voir Fastly. C'est un CDN qui est positionné sur l'Edge et qui est très innovant, très moderne et qui est très bien positionné par rapport à Akamai ou les autres acteurs classiques. Et je me suis dit comment l'Edge, il allait pouvoir un impact sur l'e-commerce. C'est comme j'aurais pu me demander comment la VR pourrait avoir un impact ou la 5G ou ce qu'on veut, quoi. Et donc, avant tout, l'Edge, bah, ça va avoir un impact sur l'infrastructure. Et en discutant avec un ami, il m'expliquait qu'effectivement c'est surtout sur l'infrastructure que ça va avoir un impact, parce que c'est comment est-ce que les données vont communiquer. Donc en termes de performance, on peut se dire que les données, elles auront pu traverser le monde, mais ça sera directement calculé au niveau local, donc ça pourra aller plus vite. Et en termes de sécurité, ta donnée, elle va plus transiter partout sur Terre, mais elle va rester localement. Le biais sur la sécurité, c'est que certes elle transite moins, mais du coup l'avantage des grosses plateformes cloud, c'est qu'elles ont des super systèmes, des firewalls, etc., pour garantir qu'il y a pour garantir la sécurité, ce qui est plus difficile sur des objets connectés. Donc pour les sites, pour revenir nous sur l'e-commerce, ça pourrait vouloir dire des sites qui en partie auraient une partie statique et une autre dynamique, et la partie statique pourrait être plus locale. En termes de l'impact direct sur l'Edge, ça va être dans les entrepôts, parce qu'on pourrait se dire que pour la traçabilité, pour savoir où sont les produits, etc., toutes les palettes, tous les produits vont communiquer entre eux et avec les systèmes. Donc, j'ai pas trop creusé ce point-là parce que ça m'intéressait un petit peu moins. Je me disais, pour le client, pour le consommateur, qu'est-ce qu'un truc comme ça d'infrastructure Edge allait avoir comme impact? J'avais deux pistes de réflexion. La première, c'est tu pourras avoir une intelligence artificielle locale. Donc, tu n'as plus besoin d'envoyer tes informations à Google ou Amazon pour qu'ils calculent tout ça. Ton téléphone, il te permet de tout faire. Et l'intelligence artificielle locale, ça pourrait être du visuel, de l'audio ou des recommandations. De visuel, tu peux te prendre en photo, il va analyser ce que tu as, il pourra te faire peut-être des looks et tu te dis que ce n'est pas envoyé quelque part, mais c'est localement fait. De l'audio, tu pourras lui parler, c'est déjà ce qui est fait avec les assistants. Mais on pourrait imaginer des sites internet ou des web apps ou des choses qui sont un peu plus avancées et tu puisses directement communiquer avec ton site. Et des recommandations, il pourra analyser tout ce que tu fais sur le site, mais même sur ton téléphone, comprendre un petit peu mieux, et même où tu es, comprendre un petit peu mieux ton utilisation et te proposer des produits. Donc ça passe avec la reconnaissance d'image, la reconnaissance audio, etc. Et la dernière chose que j'avais en tête, c'était toujours dans cette même idée où tu stockes tout en local dans ton téléphone ou dans ton appareil, tu pourrais peut-être avoir une manière différente de communiquer avec ton magasin, et ça passe plus par un cloud où on te dit on reconnaît Laetitia Lamarie et puis tu as ton score, etc. Mais comme tu as toutes tes infos locales, déjà tu les partages pas, donc enfin tu les partages juste avec ton téléphone, et une partie de ces informations pourrait être partagée avec le magasin directement et on pourrait te reconnaître, ou tu pourrais avoir des vitrines qui vont te reconnaître toi, et tu communiques toi avec la vitrine et pas toi avec le cloud avec la vitrine. Bon, c'est beaucoup de réflexions comme ça, il y a rien, j'ai rien trouvé sur internet qui lit les deux concepts.
Voilà, c'était ma question. Juste moi qui... Est-ce que tu as trouvé un cas client,
j'invite les auditeurs à me contacter pour poursuivre cette discussion un samedi soir. Non, non, mais bon, partager des réflexions. Il y en a sûrement des personnes qui sont spécialisées Edge ou qui connaissent ça. Qui, je suis super intéressé.
Bah, ceci dit, il y a une idée de business là.
Ouais, bah après, peut-être qu'il n'y a rien du tout. Et c'est juste, c'est soit ça dans une histoire ou ça sera tout ça naturellement sans avoir besoin d'Edge. Parce que
on en reparlera l'année prochaine, Adrien, dans la rubrique Retour vers le futur.
Exactement. Donc voilà comment j'ai passé ma semaine à réfléchir à tout ça.
Pendant que moi, je regardais des live streaming de Carrefour.
Les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Laetitia, t'as retenu quelque chose cette semaine que tu voulais parler?
Ouais, Adrien, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un fashion truck?
Pas du tout. Food truck, je sais, mais fashion truck, pas du tout.
Eh ben écoute, c'est un peu le même concept qu'un food truck. Le food truck, c'est ce petit camion là auquel vous vous rendez pour aller chercher des plats déjà tout préparés. Et ben les fashion trucks, c'est un peu la même chose. Ce sont des trucks, des camions spécialisés dans la mode et qui viennent à vous. Et c'est particulièrement malin en cette période de confinement et de Covid. Alors, ça a vu le jour... Alors, moi, ça fait un moment que je suis les fashion trucks. Il faut savoir que dans ma vie, un jour, j'ai voulu monter un fashion truck. Il y a peut-être, je ne sais pas, 10 ans de ça. Je trouvais que c'était génial comme idée. Ça vient des États-Unis. Et vraiment, c'est cette idée d'être itinérant et de proposer des pièces assez rares que vous ne trouvez ni sur Internet, ni en boutique, mais dans un espace un petit peu plus confiné, pour le coup, et avec une expérience client vraiment sur mesure. Et là, vraiment, ça s'y prête. L'expérience s'est produite pour la marque Levi's, notamment, en Inde, qui proposait, non pas d'essayer dans le food truck, mais dans le fashion truck, mais de prendre rendez-vous pour acheter, voir, pourquoi pas faire du try at home, donc prendre des jeans ou des t-shirts, les essayer à la maison, et puis si ça n'allait pas, revenir avec un rendez-vous pour retourner la marchandise. Ça a plutôt bien fonctionné en Inde. Et puis, il y a des marques un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus luxueuses qui l'ont fait. Il y a notamment Louis Vuitton qui l'a fait aux États-Unis. Et l'expérience a été vraiment faite sur mesure. Ça s'est passé, je crois, dans l'état du Nevada, je crois. Et c'était vraiment une boutique ultra chic qui a été aménagée dans ce truck. Et du coup, vous oubliez que vous étiez dans la rue. Tout le monde était au petit soin auprès de vous pour savoir ce que vous vouliez essayer, ce qui vous intéressait. Vraiment, vous preniez un rendez-vous. C'était un moment pour vous, voilà, avec la marque. Et du coup, ça a plutôt bien fonctionné. Il y a d'autres marques autres que Louis Vuitton qui l'ont faite. Il y a notamment la marque Tamara Mellon, qui est vraiment une marque hyper américaine. C'est une maison de luxe et qui a fait plusieurs états aux États-Unis. Et voilà, toujours sur le même concept. Vous réservez un créneau en ligne. Ensuite, on ne s'occupe que de vous. Et puis, vous pouvez, non pas essayer, mais regarder, partir chez vous avec les objets, les articles plutôt que vous avez sélectionnés et revenir, voilà. Donc c'est plutôt bien pour, en cette période où on peut avoir la phobie d'aller dans les grands centres commerciaux et on sait qu'aux États-Unis les malls sont surdimensionnés. Voilà, à quand cette expérience en France? Alors en France, il y a eu des expériences similaires mais plutôt sur de la beauté, par exemple des nail trucks où vous pouviez aller faire vos ongles dans des trucks, des coiffeurs aussi qui le proposaient, mais très peu de grandes marques l'ont proposé sur du prêt-à-porter. Et je me suis trompée, c'était pas dans l'état du Nevada, mais plutôt dans l'état de New York, New Jersey et Connecticut.
Ah oui, voilà, c'est ça. Je me disais bien. Voilà, maintenant, tout
voilà,
tout
la news te parle.
Voilà, ça percute. Maintenant, c'est bon. Ouais.
Tout ça pour dire que finalement, back to basics, hein, et puis ça marche.
Quel rapport avec le e-commerce?
Ah, je l'attendais celle-là, Adrien. Justement, ouais. pour des gens qui n'ont pas de site e-commerce ou pour, par exemple, je pense à du luxe, où tu proposes une expérience e-commerce, Louis Vuitton. Je pense que la clientèle Louis Vuitton, elle aime bien quand même aller en boutique et avoir une certaine expérience en boutique que malheureusement, pendant le confinement, elle ne peut pas avoir. Et du coup, être sur des espaces un petit peu plus confinés. Et à mon avis,
donc
en plus, ce genre d'espace...
Le rapport avec l'e-commerce, c'est qu'il n'y a pas d'e-commerce, c'est ça?
Non, ça veut dire que soit tu n'as pas de site e-commerce, du coup, tu peux te mettre sur un fashion truck, voilà. Et si tu as un site e-commerce et que, en revanche, tu ne peux pas proposer une prestation à part virtuellement ce genre de choses, tu peux dire venez en e-commerce. Et puis en plus, le créneau pour prendre rendez-vous, je pense que ça se fait depuis le site e-commerce. Et que tu peux déjà faire une présélection des articles que tu veux voir depuis le site e-commerce.
Ok.
Amazon. Qu'on aime ou qu'on déteste, Amazon est dans le shopping game et continue à imposer son style. Que vous soyez marque, vendeur ou consommateur, l'Amazon fait le point sur les actualités chaudes d'Amazon.
Laetitia, cette semaine, l'histoire se répète partout. Amazon devient ou est le premier client de la Poste avec, avec 15% des colis livrés. Faut savoir qu'un tiers des colis d'Amazon en France sont transportés par la Poste. On n'est pas étonné de voir ça. C'est la Poste qui communique ces chiffres-là. Je ne suis pas étonné de voir ça, c'est-à-dire je ne suis pas étonné de savoir que Amazon, c'est le premier client de la Poste. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis et on sait ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'Amazon, petit à petit, va développer son propre réseau, va diminuer sa dépendance à la Poste et que finalement la Poste aujourd'hui elle a un super client, un super partenaire, mais que potentiellement demain ça sera son concurrent. Donc c'est très difficile pour la Poste d'un côté de s'éloigner de son meilleur client et de l'autre côté de continuer à interagir avec. Pour la Poste, les réponses qu'ils ont, c'est la diversification, pas juste dire on va emmener un colis d'un point A à un point B, notamment avec tu peux passer ton code, etc., le coffre-fort numérique, enfin plein de services qu'ils proposent. Il y a également Ascendia, je ne sais pas si tu connais, c'est une joint venture entre la Suisse, Poste Suisse et la Poste, qui permet qui investit dans des sociétés, dans des startups. Donc, et puis, même quand ils investissent et qu'ils se disent, bon, bah, maintenant on va la racheter, ils peuvent la racheter. Donc on voit que la Poste investit, essaye de se diversifier. Un chiffre qui fait froid dans le dos, c'est au niveau global, Amazon qui a livré plus de la moitié de ses colis en 2019 et ça représente 1,77 milliard de colis dans le monde. Donc c'est la question, c'est pas est-ce que Amazon va continuer à grandir avec la Poste, c'est quand est-ce que Amazon va être complètement autonome et deviendra plus compétitif que la Poste. Et enfin, Amazon qui, on apprend, devient le troisième employeur de la planète. Donc, ils ont recruté 430 000 personnes dans le monde en moins d'un an, ce qui amène à 1,2 million d'employés sans les saisonniers. Et rien qu'en France, il y a un peu moins de 10 000 personnes en CDI. Alors, à ton avis, dans les top premiers, tu aurais quelle typologie de boîte ou quel style de boîte tu aurais ? T'as une idée ou pas du tout ?
Je pense que j'aurais une idée. Je pense qu'il doit y avoir quelqu'un de la grande distribution.
Ok. Mais bah, pas du tout. Numéro 1, c'est Walmart.
Bah, laisse-moi finir. Voilà, ah, okay. J'allais dire, ça peut pas être un acteur français type Carrefour, mais peut-être un Kohl's ou un truc comme ça. Et de fait, Walmart, voilà.
Ouais, t'allais dire Walmart, je sentais que t'allais dire. Bon, Walmart, 2,2 millions de salariés. Est-ce que tu as les autres?
Est-ce que ce serait pas quelqu'un dans l'industrie pharmaceutique? Ou attends, qu'est-ce qui rapporte de l'argent? Le pétrole? Genre non pas en total, mais c'est quoi là, un Shell ou un truc comme ça?
Alors le numéro 2, c'est le pétrolier chinois China National Petroleum avec 1,34 million d'employés. Et je vais te donner les autres.
Vas-y.
On a ensuite China Post Group, donc c'est la poste chinoise, et l'EDF chinois State Grid.
Ouais,
et
à
la septième position, on a Volkswagen. Donc si tu regardes, en fait, c'est juste classico-classique. Si on réfléchit une seconde, c'est les grosses boîtes chinoises qui ont le plus d'employés et Amazon qui devrait passer, alors en fonction des classements, ils sont deuxième, troisième, quatrième, mais s'ils continuent leur croissance, on peut imaginer qu'ils deviennent premiers dans quelques temps.
No Filter, la rubrique sans filtre de l'actualité des réseaux sociaux où les likes et l'argent sont monnaie courante. Adrien, tu veux nous parler d'une étude sur le social commerce?
Ouais, parce qu'en fait, elle a été pas mal relayée sur LinkedIn. En général, tu parles de social commerce. Celle-ci, je l'ai trouvée assez simple à lire. C'est en fait une infographie. Donc, vous avez le lien, vous cliquez simplement dans le lien et puis vous avez toutes les infos. Je vais pas toutes les commenter. J'en ai gardé trois pour toi, Laetitia. La première, c'est on apprend que 31% des Français ont acheté via le social. Bon, ça fait un tiers, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est le 24% qui n'ont jamais acheté via le social. Ça m'a étonné, ça me paraît énorme.
Mais
un
c'est
quart
beaucoup.
Qui n'ont.
Oui.
Bah voilà, exactement, ça me paraît énorme. Donc, je suis moins étonné par les 31, plus étonné par le 24%. Pour l'excuser, c'est les seniors, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que les seniors sont sur les réseaux sociaux. Donc, je suis curieux de savoir quelle est la typologie des personnes, justement, qui ne sont pas du tout. Enfin, un quart, ça me paraît quand même beaucoup quand on parle de d'e-commerce. Les raisons principales pour aller acheter sur les réseaux sociaux versus le site en propre, tu dirais quoi? Ça serait quoi qui te poussera à acheter sur les réseaux sociaux?
Les promos. Hein.
Ouais, numéro 1, c'est les promos.
Ah oui.
Deuxième chose, c'est l'exclusivité. Et le troisième, c'est le process d'achat pratique et rapide. Et donc ça, on en parle souvent d'Instagram Checkout ou des autres manières d'acheter ou de faire, ou en tout cas ce que les réseaux sociaux font pour s'accaparer le client et faire en sorte d'acheter directement. C'est un vrai argument qui pousse les clients, les acheteurs, les consommateurs à acheter directement sur les réseaux sociaux. Et enfin, le top 3 des réseaux sociaux. Donc tu en as 3, tu dirais lesquels?
Bah, moi, je dis que c'est Facebook, Insta et Snap.
Exactement. Donc, tu as Facebook à 76%, Instagram à 23% et Snapchat à 11%. Donc, Facebook, 76%, c'est la grande majorité achète sur Facebook ou via Facebook. Et je ne suis pas certain de la définition. Je ne l'ai pas trouvé sur le site. Qu'est-ce que ça veut dire via ? Est-ce que ça a été exposé et ensuite tu achètes sur le site ou est-ce que tu achètes directement sur la plateforme via le moyen de paiement ? Donc, ça, je n'ai pas cette info. Mais en tout cas, Facebook compte énormément. On peut en dire ce qu'on veut aujourd'hui. Ça pèse beaucoup dans le game du social commerce.
Retour vers le futur, c'est la rubrique où l'on fait un bond d'un an en arrière pour faire un suivi sur les news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions de l'époque et nos analyses et on vous en fait part. Montez dans la DeLorean et c'est parti.
Laetitia, l'année dernière, on peut te demander déjà est-ce que c'est prédiction ou prédilection ?
C'est toujours la même question que tu poses et je te dis c'était prédiction.
Et chaque année, tu me réponds la même chose et j'oublie. Donc dans un an, je te reposerai la question est-ce que c'est prédiction ou prédilection ? L'année dernière, on était à l'épisode 19, on enregistrait le 3 décembre 2019. On parlait des Black Friday Cyber.
Non, arrête, c'est vrai ?
Ouais.
Pile poil le 3 décembre.
Exactement, donc on enregistre aujourd'hui le 3 décembre. L'épisode sera certainement publié autour du 4 ou du 5. On faisait un focus sur le Black Friday, Cyber Monday. On parlait également de Vinted qui lève de l'argent et qui est valorisé $1 milliard. On parlait de Vibram qui quitte Amazon. On a parlé de beaucoup d'autres choses. Et les deux petites choses qui me faisaient sourire, c'est la première, c'est Ning Yang. Tu sais qui c'est ?
Non.
Bah, c'est le DG AliExpress France qui disait, donc en décembre dernier, nous réfléchissons à l'ouverture d'un magasin en France. Ning Yang. Un an plus tard, tu connais toutes les personnes d'AliExpress, Laetitia, c'est ça ? Tu ne reconnais pas ?
Ah non, je confonds. Alibaba Group, c'est Sébastien Badeau. Ok, oui.
Donc, nous réfléchissons à l'ouverture d'un magasin en France. Un an plus tard, il n'y a toujours pas de magasin. Il y a eu deux petites choses qui ont été faites. C'est l'ouverture d'une boutique éphémère au Halles en septembre 2019. Donc, une boutique AliExpress. Il y avait pas mal de monde. Ça avait fait pas mal septembre 2020 ?
On en a parlé.
Ok, donc c'est septembre 2020. Ouais. Très bien. Et depuis, pas grand chose. Et on peut se dire que le Covid est passé par là. Pas mal de retard a dû être fait. Est-ce qu'ouvrir aujourd'hui une boutique, c'est judicieux avec le confinement et tout ce qui est en train de se passer ? Peut-être pas. Donc on verra si 2021 sera plus propice à l'ouverture de boutiques AliExpress. Et enfin, la dernière news intéressante de l'année dernière, c'est Instagram Checkout. On expliquait qu'il était. Qu'il avait été lancé quelques mois auparavant et qu'il était utilisé par 78 grandes marques. Entre-temps, je n'ai pas trouvé de chiffres sur combien de marques utilisent Instagram Checkout. Il y a deux petites choses qui me paraissent intéressantes. Le 12 novembre dernier, c'est le bouton Shop ou l'onglet Shop qui arrive sur la home. Donc, une volonté très forte pour Instagram de pousser ça. Et la deuxième chose, c'est une communication très marquée sur les réseaux de Sephora qui explique qu'ils se lancent sur Instagram Checkout avec 80 marques de cosmétiques. Donc, il y a beaucoup de marques qui l'ont complètement pris, qui l'ont intégré dans leur stratégie. Ils ne communiquent pas sur les chiffres, je ne les ai pas trouvés, mais il faut croire que ça marche plutôt bien.
Passe le mic. Passe le mic, c'est le moment où on partage le micro avec un invité. Et cette semaine, nous passons le micro à Christophe Dely de Shopee Shopa. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Passe le mic, nous accueillons Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Bonjour Laetitia et bonjour Adrien.
Bienvenue dans Passe le mic. Christophe, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et puis ce que tu fais dans l'industrie du e-commerce ?
Avec plaisir. Je fais du conseil technologique dans l'environnement Shopify, pour Shopify, pour Shopify Plus et Shopify POS. Et j'ai une carrière précédente dans une agence e-commerce que j'avais fondée et co-dirigée pendant 11 ans, qui s'appelait Brandonline. Et encore avant, une carrière dans les systèmes d'information dans des grandes entreprises. Et encore avant, de la création d'entreprises autour d'Internet dans les années 90.
Et aujourd'hui, du coup, tu es à la tête de Shopee Shopa. Tu peux nous en dire plus sur Shopee Shopa, même si le nom est très évocateur.
Shopee Shopa Consulting, c'est une société de consulting dans l'écosystème Shopify. Je travaille avec des agences en complément de leurs expertises sur des projets Shopify. Je travaille pour des marchands qui ont des problématiques sur des expertises sur lesquelles je peux apporter un plus, qui sont principalement des problématiques de connexion au système, au système tiers, au système existant dans l'entreprise et qui sont aussi des problématiques autour de l'internationalisation des sites.
Christophe, tu l'as monté quand, ton agence? Est-ce que c'était déjà mainstream ou aussi connu que ça, Shopify? Ou ils étaient déjà en France ou non, tu l'as créé avant l'ouverture du bureau français?
Moi, j'ai créé ma boîte de consulting il y a un an et demi en sortant de mon agence dans laquelle j'ai été 11 ans. Et mon agence dans laquelle j'ai été a travaillé d'abord sur Magento. Et à partir de 2015, sur Shopify, moi, j'étais basé à New York à l'époque. Donc, j'ai commencé au sein de mon agence du Shopify en 2015. C'est assez en avance sur le marché français qui a vraiment explosé depuis 2 ans.
Ouais, super. Et justement, est-ce qu'on peut discuter de Shopify? C'est quoi aujourd'hui? Comment est-ce que tu travailles avec Shopify? Tu as des contacts directs ou tout se fait online et il n'y a pas de relation directe avec le bureau français?
En ce moment, sur cette année 2020, c'est énormément du télétravail, donc c'est énormément de contacts en ligne, via réseau, le networking, etc. Sinon, Shopify a une culture de faire des meet-up physiques. Ils aiment bien que l'écosystème se rencontre, partage. Et c'est vrai que c'est un écosystème, je le dis souvent, qui est très friendly. C'est un écosystème entre guillemets concurrents, que ce soit les agences, que ce soit les créateurs d'app. Il y a énormément de partage.
Sur le marché français, quand vous parlez de concurrence, vous positionnez qui en face? C'est un PrestaShop par exemple, ou c'est quoi les solutions qui sont, tu dirais, concurrentes de Shopify en France?
En France, il y a un très gros historique PrestaShop, puisque l'éditeur est français. Il y a aussi un assez grand historique Magento. Magento a été toujours très fort historiquement en France. Tu as aussi Salesforce Commerce, anciennement Demandware, que je crois que tu connais bien, Adrien. Et on a aussi d'autres solutions qui pointent leur nez. En fait, il y a une créativité dans le domaine des plateformes e-commerce. Il y a Commerce Tools, il y a Shop, je ne sais plus comment d'ailleurs, Shop, celui-là je l'ai oublié. Il y a BigCommerce qui pousse aussi par l'Amérique du Nord. Et il y a plein de solutions plus ou moins faites par des agences localement dans des pays. Il y a, en France, il y a WeezyShop, il y a aussi plein d'autres choses. Donc la concurrence en fait sur les plateformes e-commerce, elle est maximale.
Et tu vois que les agences, justement, elles sont multi-plateformes ou elles sont spécialisées?
Une agence, soit elle est ultra spécialisée sur une plateforme, soit elle est au contraire complètement agnostique et elle va avoir une approche de dire « je vais écouter le besoin du client et en fonction de ce besoin-là, je vais l'aiguiller sur telle ou telle plateforme ».
Christophe, j'aimerais bien qu'on revienne sur la manière dont Shopify est arrivé en France. J'ai l'impression que Shopify est déjà bien établi, et sur du SMBs, on a l'impression qu'ils ont toujours été là, même si tu le rappelais, PrestaShop était déjà bien bien implanté. Est-ce que tu te souviens quelle était la stratégie d'implantation de Shopify pour arriver sur le marché français? Quelle était la stratégie que tu as pu voir, et puis surtout là où les stratégies qui vont être mises en place là pour gagner des comptes peut-être un petit peu plus gros que sur du SMBs?
Je crois que sur la France, Shopify fait comme sur les autres pays. Ils ont commencé par localiser leur solution et puis localiser l'équipe. Shopify en français, le back-office en français, ça date du printemps 2018. Jusqu'à ce moment-là, Shopify, le back-office n'était qu'en anglais. Il y avait une version japonaise également d'ailleurs. Mais donc la localisation en français est assez récente au niveau de l'outil. Et l'équipe France a démarré il y a pile 2 ans. Et ils ont commencé à travailler sur une localisation accélérée de l'écosystème, que ce soit les agences ou les créateurs d'app, de manière à ce qu'on ait, en tant que marchand français, des apps de connexion, par exemple, aux transporteurs français, à des services plutôt correspondant au marché français. Donc c'est cette logique de localisation, de proximité avec un écosystème à développer et des marchands.
Et alors justement, pour gagner des comptes plus importants, parce qu'on sait que Shopify a désormais des comptes plus importants, de renommée plus importante, avec beaucoup plus de flux, on va le dire comme ça, comment est-ce qu'ils ont fait pour les convaincre, ces comptes-là?
Shopify, ils disent souvent « on stretch the market », c'est-à-dire qu'on étire le marché, c'est-à-dire que la plateforme Shopify, elle peut convenir au business owner qui fait son site ce week-end rapidement, et elle peut convenir aussi à un gros biz, à un grand compte. Cette approche, ils l'ont illustrée en créant une offre spécifique qui s'appelle Shopify Plus, derrière laquelle il y a une vraie business unit de plusieurs centaines de personnes et qui va permettre d'adresser plus précisément Les gros business. Alors, les gros business chez Shopify, ça peut être un grand compte au sens un grand groupe qui va avoir une très grosse notoriété et qui a des marques ou des e-commerce à créer et à développer. Mais ça peut être aussi des gros business sur des marques qui n'existaient pas il y a 5-10 ans et qui, en fait, sont nées dans le digital et brassent des sommes assez impressionnantes.
Ouais, bah justement, on associe très souvent Shopify à des marques naissantes, à des DNVB, des marques qui sont créées sur le digital. Et tu viens de le dire, bah parfois c'était la genèse de Shopify, mais on retrouve aussi des grands groupes qui maintenant passent sur Shopify Plus, et on les voit en plus sur LinkedIn. Il y a quand même cette idée de montrer qu'on passe sur du Shopify Plus. Et on le disait en préparant cette émission, la communauté de Shopify, des gens qui utilisent Shopify est très puissante, un peu à la star d'influenceurs et d'influenceuses. Et moi, de mon côté, parce que j'utilise aussi du Shopify et puis avec le café de l'e-commerce, j'ai l'impression que c'est vraiment toute la force. La communauté Shopify, elle est assez exceptionnelle et elle a l'air aussi très abordable.
Oui, elle est très dynamique. Une des spécificités du partenariat Shopify avec sa communauté, c'est qu'on ne paye pas pour être partenaire. Au contraire, on est payé. Les partenaires sont rémunérés sur les sites qui sont créés par leur intermédiaire. Moi, dans mon historique d'agence, c'est notoriété publique. Pour être partenaire Magento, on payait. On payait un label et il y avait un certain nombre de contraintes. L'effet est complètement inversé sur l'écosystème Shopify. Après, sur l'écosystème Shopify Plus, si on regarde la partie gros biz, etc., c'est encore un écosystème qui nécessite d'être développé parce que certains comptes qui ont des gros volumes, qui ont des grosses activités, ont besoin en phase 2 d'une typologie de partenaires, des équipes plus denses, des équipes avec parfois des mindset consulting qui sont encore assez peu présents dans l'écosystème Shopify.
Christophe, on a beaucoup de... Shopify, ils sont très différents en beaucoup d'aspects, surtout par rapport aux acteurs traditionnels. J'aimerais bien qu'on discute un peu de la roadmap et de savoir un peu vers où ils vont, comment est-ce qu'ils communiquent. Alors toi, tu bosses avec eux, donc nous, de l'extérieur, on n'a pas trop de visibilité. Est-ce qu'il y a des réunions ou des sessions, justement, où vous participez à la roadmap, vous avez de la visibilité dessus et comment c'est communiqué aux clients?
Alors, vaste sujet, la roadmap, sur lequel moi je n'hésite pas avec ma position d'indépendant, à être critique envers Shopify. Les roadmaps de Shopify sont très difficiles à connaître. Shopify peut te sortir demain, et demain de l'enregistrement qu'on est en train de faire, va peut-être sortir une feature qu'on attendait tous depuis longtemps et pour laquelle, quand on essayait de se renseigner, on nous disait « oui, ça va venir ». Mais sans plus de précision. L'année dernière, ils adoraient dire « later this year ». Cette année, ils adorent dire « stay tuned ». Moi, c'est le reproche principal, majeur que je fais à Shopify, c'est l'absence de visibilité sur les évolutions, qui est parfois un petit peu délicat quand on doit communiquer avec un client à qui on a dit « ça va venir ». Le client, au bout d'un moment, le marchand, il aime bien savoir quand est-ce que ça va venir. Ça, mis à part, Shopify essaie de communiquer régulièrement avec les marchands. Il y a notamment... tous les mois, un town hall qui permet aux marchands d'avoir les dernières news. C'est un webinar pour les marchands, pour les partenaires, pardon, et les marchands, qui permet d'avoir pas mal d'informations sur la suite. Voilà. Donc ça, c'est le côté. La roadmap, c'est jamais très précis. On sait néanmoins globalement vers où va Shopify.
Très bien. Bon, bah, c'est un peu le flou. vous êtes à la merci de ce que Shopify veut bien vous donner comme information. Merci Christophe. On va se diriger vers la conclusion. Quelle est la suite pour toi, pour ton agence, pour Shopa Consulting? Est-ce que tu as des messages à faire passer? Voilà. Et puis, si on veut aller plus loin sur Shopify, est-ce que tu as des ressources à nous partager?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Shopify aujourd'hui. C'est un environnement, on l'a dit, qui est exceptionnellement actif. L'équipe France a un blog qui communique régulièrement sur les évolutions de Shopify sur le marché français. Donc, je dirais que c'est la première source d'information peut-être à consulter. Et puis, c'est un marché, il faut le dire, où il y a énormément de besoins qui ne sont pas couverts. C'est-à-dire que les agences, moi, que je connais dans l'écosystème sont juste débordées, débordées de travail, aussi bien sur la partie front, intégrateur, que sur la partie back pour les connexions API. C'est un marché où il y a, toutes les agences cherchent des gens. Et donc, le message, c'est intéressez-vous à Shopify parce qu'il y a énormément de business.
Et proposez vos services.
Mais bien sûr, il y a.
Voilà.
C'est, ça explose tellement qu'il y a énormément de boulot actuellement, aujourd'hui, là, tout de suite.
Ok, bon, bah, c'est important de le noter, surtout en cette période. Merci Christophe.
Merci beaucoup Christophe.
Si on veut te joindre, où est-ce qu'on peut, on peut te joindre? Je sais que tu es très actif sur Twitter, entre autres.
Oui, je suis, alors, je suis un peu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Christophe Davy. Sinon, mon site, shopishopa.com. Un peu sur LinkedIn, un peu sur Insta.
Et puis tu as un podcast également, tu es un podcasteur.
Oui, je me suis mis au podcast, alors avec une niche très précise, c'est un podcast en anglais qui s'adresse à l'écosystème et qui résume tous les 15 jours ce qui s'est passé sur la planète Shopify.
Alors, rappelle-nous le nom du podcast.
Le podcast s'appelle le Shopishopashow.
Shopishopashow.
On mettra le lien, alors c'est
merci
très
drôle. Merci beaucoup Christophe.
Merci
belle
encore
continuation
Christophe de ton
et à
temps
très bientôt pour, pour des nouvelles bien fraîches.
Et au plaisir d'échanger de nouveau.
Merci à vous deux. Très bonne continuation avec votre super podcast.
Merci.
Merci.
Le suivi livraison, c'est la rubrique où l'on donne la parole en 60 secondes chrono à nos anciens invités pour nous donner des nouvelles. Cette semaine, c'est Viviane qui revient nous faire un petit coucou. Souvenez-vous, Viviane, c'est la spécialiste des DNVB et des D2C. Elle était venue au micro lors de l'épisode 041 saison 1. Le suivi du colis S01E41 est en cours.
Laetitia, Adrien, merci mille fois pour votre super gentil post sur LinkedIn, dans votre calendrier de l'Avent, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et oui, c'est vrai, le café de l'e-commerce, c'est vraiment un endroit génial. Je voulais vous dire aussi que bah, pour les DNVB, on va dire que malgré tout, c'était une bonne année. Nombreuses sont les DNVB qui vont franchir le pas en France de start-up à scale-up. Donc ça veut dire qu'elles vont pouvoir passer à l'échelle, qu'elles ont fait la preuve qu'elles avaient bien un marché, une communauté, un produit qui fonctionne, une manière d'adresser le marché aussi qui fonctionne. Et donc, elles sont assez nombreuses à préparer des levées de fonds. Et ben, ça veut dire aussi, en fait, que finalement, tenir une position forte, être customer-centric, être au service de la communauté, être une mission brand, ça fonctionne. Donc vraiment, je m'en réjouis et j'espère partager plein de bonnes choses avec vous l'année prochaine.
Merci Viviane pour cette chaleureuse note vocale. Alors pour resituer le contexte, avec Adrien, nous avons lancé le calendrier de l'Avent pour le podcast Le Café de l'e-commerce. Vous pouvez le voir apparaître sur nos réseaux sociaux. Et hier, donc le 2 décembre, nous avions mis à l'honneur Viviane. Notre calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent un peu spécial où l'on décide non pas d'offrir des cadeaux voilà, ou de vous faire découvrir quelque chose. Non, nous avons décidé de mettre en avant quelqu'un qui est passé au micro ou quelqu'un qui nous a soutenus lors de ce projet fou qui est le podcast Le Café de l'e-commerce. Et donc, nous avons souhaité remercier chaleureusement Viviane. Reco micro, au micro, on fait notre reco, écoutez-la, illico presto. Adrien, quelle est la reco de la semaine que tu veux nous faire?
Non, c'est une recommandation qui n'est pas directement liée à l'e-commerce, on va dire que c'est plus à la productivité. Je ne vais pas vous faire une reco sur Notion parce que c'est le gars qui débarque 3 ans plus tard, trop tard. Mais bon, c'est une solution, un outil que j'ai commencé à utiliser. J'utilisais Feedly pour lire mes flux pendant des années. Avant, c'était même NetVibes, ensuite Feedly pendant des années, des années. Et il y a quelques semaines, tremblement de terre, j'ai changé complètement de plateforme. Alors, j'ai tout exporté, etc. Et j'utilise désormais InnoReader. Donc, je vous le recommande parce que notamment, une des fonctionnalités qui est pas mal, c'est qu'on peut s'inscrire à des newsletters et les avoir en flux. Donc, on ne les reçoit plus dans les mails, mais on les reçoit à un seul endroit dans le lecteur de flux RSS. Donc, InnoReader, c'est un lecteur de flux RSS. Ça permet de suivre l'actualité des sites. Bon, bah, pour, dans le cadre de l'e-commerce, on fait votre veille et puis on garde ce qui est intéressant et puis on vous la recommunique. Mais pour, si vous voulez faire votre propre veille ou si vous voulez juste suivre des tendances, c'est un outil parfait qui est gratuit. Et pour la version payante, il y a des fonctionnalités avancées. Mais voilà ma reco, InnoReader. Et toi, Laetitia, quel reco cette semaine ?
Et moi, je vous recommande la newsletter TikTok for Business. TikTok for Business, je crois que c'est une newsletter qui vous est envoyée une fois par mois et qui, dans l'ordre, vous donne les tendances hashtag sur Twitter. Donc ce mois-ci, je vous en avais parlé, mais l'un des hashtags qui a cartonné, c'est hashtag TikTok Academy. Vous vous souvenez, lorsque je vous parlais des partages de connaissances avec ce hashtag et avec ce fameux dentiste, qui est toujours dans les number one d'ailleurs, j'ai été vérifiée hier. Vous avez aussi Je possède des thunes, donc je ne sais pas si vous connaissez ce titre qui a cartonné sur TikTok et dont il y a eu plein de parodies. Et puis vous avez aussi encore un autre hashtag qui est hashtag Ono. Vous avez aussi un gros focus dans cette newsletter sur les marques sur TikTok. Et là, ce mois-ci, Asos a été mis en avant et vous avez vraiment... comme un espèce de case study où on vous explique comment Asos a mis en place son challenge, son hashtag, quels étaient les objectifs, quels ont été les meilleurs TikTok reliés à cette opération commerciale. Voilà, donc moi je vous recommande de vous abonner s'il ne faut pas forcément être sur TikTok pour comprendre ce qui s'y passe, mais en tout cas si vous avez envie de comprendre comment TikTok communique, comment TikTok fournit d'autres contenus que sur TikTok, parce qu'il vous invite aussi à télécharger des livres blancs et vous invite à aller regarder d'autres contenus en dehors de TikTok. Voilà, c'est une newsletter que j'aime assez. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend, on rigole, on s'amuse. Adrien, le maître du jeu, et il s'amuse autour de sujets du digital. N'hésitez pas à vous prendre au jeu chez vous et à participer de votre côté pour trouver les réponses le plus rapidement possible. Adrien, cette semaine, qu'est-ce que tu nous as réservé ?
Alors, on a un cupuc, un question pour un champion et un chiffre de la semaine. Je te propose de commencer par le cupuc.
Allez.
T'es prête ?
Mm-hmm.
Donc, on rappelle, il faut trouver le plus rapidement possible la société, la marque, la personnalité à laquelle je fais référence. Si vous trouvez avant Laetitia, vous gagnez 1 milliard de points et puis vous pouvez les troquer pour un sourire ou un like sur un post. C'est parti Laetitia ?
Ouais.
Je suis une société créée en 1999 aux États-Unis. En 2016, je suis intéressé pour acheter Twitter, mais finalement, rien ne se passe. Idem la même année avec LinkedIn, qui est racheté par un de mes concurrents, Microsoft. Parmi la soixantaine de sociétés que j'ai rachetées, on peut noter Crux, Quip, Acta ou encore Steepy. Je développe une culture, Oana, qui servira d'exemple à beaucoup de startups. En 2016, je rachète...
C'est Salesforce.
Bravo, Salesforce, bien joué.
Mais Salesforce 99, c'est pas plus tôt.
Et exactement, on se dit que Salesforce c'est une startup et pas du tout. Et je t'ai pris des petites sociétés inconnues au bataillon, sinon ça a été trop facile. Alors je vais terminer la description. En 2016, je rachète une société spécialisée dans l'e-commerce B2C et en 2018, une autre dans le B2B. Toujours en 2018, je termine la construction de mon nouveau siège, une tour de 326 mètres qui devient un des plus grands bâtiments de la côte ouest. En décembre 2020, je rachète une société pour 27 milliards de dollars et renforce ma concurrence face à Microsoft. Et je suis Salesforce. Bravo Laetitia.
Et d'ailleurs, depuis le rachat officiel hier de Slack par Salesforce, moi j'ai eu que des problèmes sur Slack.
Ah bon, tu crois que c'est lié ?
Ouais, c'est lié.
Je vais te dire un truc, il va rien se passer pendant 9 mois ou un an.
Bah oui.
Et ensuite on commencera à peine avoir un truc. Donc full disclosure, je suis un ancien de Demandware Salesforce.
On verra un petit logo apparaître, Slack, Salesforce Company, et puis voilà.
Voilà, exactement. S'il ne change pas le nom, il y en a déjà qui disaient Salesforce Chout Cloud, ou je ne sais plus comment il l'appelait, c'était amusant. Du coup, on passe à la suite, le chiffre de la semaine.
Allez.
Je n'ai pas été très sympa pour toi cette semaine, je crois qu'il est un petit peu difficile, mais c'est ça qui est amusant. Alors, le chiffre de la semaine, c'est 270. Alors, est-ce que c'est la moyenne en dollars des dépenses qui ont été faites lors de la Cyber Week cette année ?
Mm-hmm.
270. Deuxième proposition, en milliards de dollars, c'est le montant global qui a été généré par la Cyber Week, donc du Black Friday au Cyber Monday.
Mm-hmm.
Et enfin, troisième possibilité, c'est le nombre en millions de colis par jour qui vont être livrés par la Poste cette année.
Ah ouais.
Donc première chose, c'est le panier moyen de la Cyber Week. Deuxième, c'est le montant, le revenu généré par le Cyber Week. Et troisième, c'est les colis par la poste.
Je dirais réponse 2 ou réponse B.
Eh bien, est-ce que c'est ton dernier mot, Laetitia ?
Oui, c'est mon dernier mot.
Eh bien, c'est la bonne réponse. Félicitations. Donc, Effectivement, 270 milliards ont été générés au niveau global pour cette Cyber Week, 60 milliards juste aux États-Unis. C'est une augmentation de près de 30% par rapport à l'année dernière et une augmentation de 22% en termes de nombre de clients. Pour le panier moyen, on est à 311 $. C'est une baisse de 50 $ par rapport à l'année dernière. Et pour l'histoire de la Poste, c'est bien moins, bien entendu. La Poste s'attend à livrer 4 millions de colis par jour, mais c'est quand même une augmentation de 900 000 colis par rapport à l'année dernière. Donc, bravo Laetitia.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédelecommerce.fr. Profitez-en pour passer sur l'App Store et de nous gratifier de 5 étoiles.
Merci encore à tous. Si vous cherchez du travail ou si vous avez une annonce à passer, n'hésitez pas à nous contacter. On a une rubrique Le Café du Cœur et on sera ravis d'aider les personnes qui en ont besoin et qui souhaitent avoir un petit coup de pouce dans l'écosystème e-commerce. Laetitia, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir tout le monde.